Et dans la question du jour que nous vous posions hier, c'était la suivante. La pression internationale autour d'une attaque à Rafah sert-elle les intérêts du Hamas? Alors Lise, quels sont les résultats à cette question?
Alors, il n'y a que sur Twitter que les gens n'ont pas l'air sûrs, puisqu'on est à 50-50. Sinon, sur Facebook, on est à 94% de oui, et sur Insta, on est à 100% de oui. Donc, on peut pas dire qu'il y a beaucoup d'hésitation, mais on va demander son avis à notre invité. Je suis ravie d'être en ligne ce matin avec Pascal Zahnstein. Bonjour.
Bonjour, Lise.
Merci d'être avec nous ce matin sur Radio Judaïka. Pascal, vous qui êtes journaliste et qui connaissez bien tout le Moyen-Orient, est-ce que vous êtes d'accord avec nos auditeurs? Est-ce que cette pression sur l'opération à Rafah, elle sert les intérêts du Hamas?
Dans la mesure où la pression internationale retarde l'échéance, évidemment, elle sert d'abord les intérêts du Hamas, puisque Rafah, on le sait, c'est la ville qui se trouve la plus au sud de la bande de Gaza, celle où Tsahal n'est pas encore intervenu et où se trouvent, avec un maximum de probabilité, les plus importants chefs du Hamas, à commencer évidemment par Yahya Sinwar. Donc tant qu'ils sont en sécurité dans leur bunker et pas directement menacés par une offensive terrestre, les chefs du Hamas peuvent évidemment continuer à conduire la guerre contre Israël. Donc là, oui, bien évidemment, ça sert d'abord les intérêts de l'organisation islamiste palestinienne. Mais cette pression internationale ne continue et ne s'amplifie que dans la mesure où les États-Unis en prennent la tête, ce qui d'ailleurs, on le voit, est le cas maintenant depuis plusieurs semaines.
Alors justement, Pascal Zahnstein, hier, Ron Dermer disait « Israël prendra le contrôle de Rafah, même si ça implique une rupture avec les États-Unis ». Est-ce que c'est envisageable? Est-ce qu'on en est là?
C'est la question qui se pose, puisque le ministre israélien chargé des affaires stratégiques, donc Ron Dermer, et le conseiller à la sécurité nationale, Tsari Hanegbi, sont les deux émissaires que Benjamin Netanyahou a accepté d'envoyer la semaine prochaine à Washington, à la demande expresse d'ailleurs du président Biden, justement pour discuter, entre autres, de cette opération à Rafah. On imagine mal aujourd'hui Israël prendre une décision aussi ouvertement opposé à une demande expresse formulée par les États-Unis. Là, on entrerait vraiment au cœur d'une crise diplomatique, d'une crise stratégique entre les deux alliés. Donc, c'est vrai que c'est difficile à imaginer. Maintenant, évidemment, Israël ne veut pas arriver à ces négociations à Washington en position de soumission. Donc, aussi bien les déclarations de Ron Dermer que celles de Benjamin Netanyahou assurent qu'Israël est un État souverain, qu'il conserve évidemment toute latitude pour défendre sa population et son territoire, mais en même temps, on sait très bien que ce qui va se passer dans les coulisses à Washington, ça va être justement à nouveau des pressions américaines. Alors peut-être, c'est d'ailleurs ce qu'avait indiqué Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, qui arrive d'ailleurs tout à l'heure en Israël. Les États-Unis veulent proposer des alternatives à Israël. Pour l'instant, les États-Unis maintiennent leur soutien de principe sur la nécessité d'éliminer le Hamas. Donc s'il faut pour cela opérer à Rafah, oui, mais pas avec une offensive terrestre, plutôt avec des frappes ciblées. Pourquoi? Puisque c'est évidemment la présence de plus d'un million et demi de Palestiniens déplacés vers Rafah par les combats qui sont descendus progressivement du nord vers le sud de la bande de Gaza. C'est évidemment cet aspect humanitaire qui préoccupe les États-Unis. Donc s'il y avait une alternative qui éviterait une entrée massive de troupes israéliennes à l'intérieur de la ville, évidemment, ça serait l'option préférable.
Alors, option préférable, mais on voit mal tout de même comment, avec des frappes ciblées, on peut éliminer 4 bataillons du Hamas, Pascal, puisque là, on voit bien, rien que pour l'hôpital Al-Shifa, pour 150 terroristes et quelques 650 autres arrêtés, ça fait déjà 4 jours de bataille avec des troupes sur le terrain. Donc, comment peut-on faire à Rafah avec 4 fois ou 10 fois plus de terroristes?
Et c'est exactement l'argument qu'opposent les Israéliens aux demandes américaines en disant « soyez cohérents, vous êtes d'accord avec nous sur la nécessité d'éliminer le Hamas ». Ce qui se déroulera à Rafah ne peut pas se faire sans une présence de troupes sur le terrain. Alors il y a évidemment aussi, d'abord l'urgence humanitaire, la période aussi du Ramadan. C'est pour ça d'ailleurs que les États-Unis espéraient obtenir une trêve avant l'entrée en vigueur du Ramadan. Alors, ce qu'on peut envisager, c'est peut-être repousser justement cette opération. Tout dépendra notamment de ce qui va se passer dans les jours qui viennent avec les pays médiateurs qui essayent justement de faire avancer une trêve pour la libération des otages. Si on entre dans une phase d'arrêt des combats, même de quelques semaines pour la libération d'un premier contingent de 40 otages, il est probable qu'à ce moment-là, Israël retardera l'échéance d'une opération à Rafah, que dans ce cas-là, les conditions pourraient aussi être différentes. Il y a aussi le rôle de l'Égypte à prendre en considération, puisque l'Égypte a une frontière commune avec Gaza et justement avec cette ville de Rafah, qui a deux versants, un versant palestinien et un versant égyptien. Donc il y a un certain nombre de paramètres justement qui entrent en jeu dans cette décision de fixer ou non l'échéance de l'offensive dans cette ville du sud de Gaza.
Pression américaine, on en a parlé, Pascal, mais aussi pression internationale, notamment de l'Union européenne, qui doit aujourd'hui, sans surprise, voter à l'unanimité des 27 pour un cessez-le-feu immédiat à Gaza.
Et on a entendu aussi des pays qui ne sont pas à l'intérieur de l'UE, à savoir le Royaume-Uni et l'Australie, qui appellent aussi conjointement à un cessez-le-feu immédiat. Et puis il y a aussi cette résolution, là, pour la première fois présentée par les États-Unis, qui doit être débattue ce soir par le Conseil de sécurité de l'ONU, qui appelle à un cessez-le-feu immédiat, mais en le liant à la libération des otages. Donc, les États-Unis qui restent encore du côté d'Israël, mais qui font pression de manière de plus en plus forte sur Israël pour justement parvenir à cette trêve, dans l'idée aussi d'arrêter l'opération future à Rafah. Et dans la mesure à nouveau où les États-Unis sont de plus en plus interventionnistes dans la conduite de la guerre par Israël contre le Hamas et prennent des positions donc justement de plus en plus ouvertes contre cette opération de Rafah, cela évidemment encourage et dynamise le reste de la communauté internationale à faire à son tour pression sur Israël, d'où cette sensation croissante d'isolement diplomatique d'Israël sur la scène internationale.
C'est vrai qu'il y avait une cette semaine du Nouvel Économiste, peut-être, c'était, j'ai un doute sur, mais où on voyait le drapeau d'Israël seul au milieu d'un désert avec ce titre en anglais, Israel Alone. C'est l'impression que vous avez aujourd'hui, Pascal Jeunstein, qu'Israël est vraiment isolé sur la scène internationale?
Il y a clairement, une tendance à l'isolement d'Israël et c'est évidemment la situation humanitaire à Gaza qui a fait basculer la tendance internationale dans un sens plus hostile à Israël. Les massacres du 7 octobre contre Israël, les 1200 tués et les 240 otages sont malheureusement en train de s'effacer de la conscience de l'opinion et des dirigeants de la communauté internationale.
Merci beaucoup, Pascal Jeunstein, journaliste et spécialiste d'Israël et du Moyen-Orient. Bonne journée à vous. Merci d'avoir été avec nous ce matin.
Merci, Lisa. À bientôt.
À bientôt. Oui.